Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans Naturellement Vôtre avec mon ami compère et de nouveau grand-père, Jean-Pierre Fleury. Bienvenue à Camille dans ce beau monde, en espérant, on lui souhaite bien sûr tout le bonheur du monde et de longues et belles vies.
Merci.
Ben, c'est la moindre des choses. Et puis on va parler de quelque chose qui va... On va pas lui en parler tout de suite à Camille.
Bah, si les petits cochons ne mangent pas.
Ouais, voilà. On va parler d'un animal de la famille des Suidae et... Il s'agit bien sûr du sanglier, et puis pas que le sanglier, on parlera aussi bien
sûr... Non, il y a des cousins.
Il y a les cousins germains, le facochère, le potamochère, le...
Ouais, bah c'est son pote, c'est pas son cousin.
C'est son cousin, c'est pas son pote, c'est son pote. Bon d'accord, on va en parler tout de suite.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Et l'émission qui est signée par Stéphane Casalong et Patrick Besseron. Bonjour mon Jean-Pierre.
Bonjour.
On disait donc le sanglier, on va parler du sanglier et de ses cousins.
Oui.
C'est un omnivore le sanglier déjà?
Ah oui, complètement. Ça veut pas dire qu'il mange les petits-enfants. Hein.
Non.
Omnivore, ça veut pas dire qu'il mange les hommes.
Non,
on l'a déjà dit, mais on continue à le dire.
Il vaut mieux le redire, oui.
Voilà. Bon, il s'appelle en latin Porcus singularis. Donc ça a donné sanglier, chignal et autres.
Voilà.
Donc c'est le porc solitaire. Alors c'est un animal solitaire mais qui vit en groupe.
On va
s'expliquer. Hein. C'est-à-dire que quand il est vieux, quand il a de la barbe, quand il est plusieurs fois grand-père, il se retire un petit peu de la compagnie, puisque la compagnie c'est la bande de cochons, de sangliers, pardon, et il devient donc un solitaire, un grand vieux solitaire.
C'est ceux-là qui sont les plus dangereux, paraît-il. Hein. Mais on en parlera.
Parce que c'est un petit brin les plus costauds. Hein.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on va quand même.
Mais...
On va parler de bestioles qui peuvent faire jusqu'à 400 kilos.
Combien?
400 kilos.
Ah ben, on en est loin, nous, encore.
Ah, on en est très loin. En espagnol, c'est jabalí, hein, qui vient d'ailleurs d'un mot arabe, qu'on retrouve dans Djebel. Hein. C'est le porco montes des Portugais, donc c'est le porc de montagne. Voilà. En anglais, il est boar, hein, qui est tout proche de beer.
Ouais.
Beer, l'ours.
L'ours.
Parce qu'il a une allure d'ours. Hein, surtout, il y a une véritable différence, on en parlera, on s'amusera un petit peu avec ça, entre les sangliers corses qui sont en habit d'été en permanence, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de poils, sauf peut-être ceux qui sont très très hauts, parce que je suis sûr qu'il y en a jusqu'à 2000 mètres au moins, enfin en Corse. Donc, comme il fait chaud, ils sont en habit d'été. Si vous me montrez une photo d'un sanglier de Sologne, je sais à quel mois à peu près elle a été prise, hein, puisque l'allure du sanglier change complètement, puisqu'il se met un gros manteau de fourrure pour l'hiver. Donc c'est là
quoi,
d'ailleurs.
C'est le poil qui devient plus...
C'est le poil, oui, tout simplement. Mais c'est ça qui lui donne cet aspect aussi de nounours, quoi. Hein? Y a des gens, d'ailleurs, en germain, cousin germain, on disait tout à l'heure, c'est Hébert. E-B-E-R. Et il y a de nombreux patronymes. Eberhard, par exemple, on sait, ça existait. Et puis en français, Évrard, même Ouvrard. Vous vous souvenez d'Ouvrard qui chantait
«
J'ai la rate qui se dilate
».
Bon, il n'avait pas forcément, il n'était pas fort comme un sanglier, mais c'est un petit peu Eberhard, ça veut dire « fort comme un sanglier ». On l'a dit que Léonard, ça veut dire « fort comme un lion », et que, par exemple, Bernard, souvent on l'a dit aussi, ça veut dire « fort comme un ours hein ».
Bravo.
En latin, c'est sus scrofa. Alors, ben, ça veut dire porc étrui d'ailleurs. Hein. Sus, c'est le porc dans un autre latin. Et scrofa, c'est la truie. Donc, ça a donné sus, c'est la famille des Suidae.
Des Suidae, d'accord. Hein.
Voilà, qui sont alors. On le retrouve un petit peu partout, ce sanglier. Bon, il s'est baladé avec les hommes, mais de manière naturelle, il est en Europe, ça on le sait. Il est en Asie, hein, on le dira. Il est au nord de l'Afrique. C'est-à-dire que le nord du Sénégal est sa limite, hein, c'est géographique.
Mais le sanglier, Jean-Pierre, vous parlez du Sénégal, qui est un pays qui est cher à mon cœur. Les chasses étaient plus sur le facochère que sur le sanglier.
Oui, alors justement, on va arriver là-dessus. Il y a une sorte de frontière qui est presque le tropique. Hein. Au nord du tropique, c'est encore des sangliers. Au sud, c'est déjà des facos.
Des facos.
C'est un truc assez étonnant. Il y en a pas en Grande-Bretagne.
Hein. Ah
il
bon.
Semblerait qu'ils aient, eh ben, on les ait éradiqués. Alors, à la fin du 17e. C'était peut-être le meilleur.
Brexit avant la date.
Oui, voilà, ouais, les cochons quittent le navire.
Yeah. Hein.
Et puis, il est un petit peu partout sous forme d'un proche cousin, enfin d'un descendant, c'est-à-dire sous forme de cochon ou porc domestique. Parce que c'est pas tout à fait, c'est quasiment la même bête. On va dire que c'est une sous-espèce. Alors ce qui est assez, on peut remarquer d'ailleurs que il y a une histoire de chromosomes. Le cochon domestique a 38 chromosomes, le sanglier en a 36. Hein. Oui, bon. Les hybrides en ont 37, il faut avoir une bonne vue pour savoir oui, si, c'est, oui. si on a affaire à un cochon glié, un sanglochon oui. ou un véritable. Alors il y a quand même quelques... Il y a vraiment un moyen qui est très facile, imparable, c'est de regarder la forme de la tête, du chanfrein. Si le chanfrein d'un des animaux fait un angle, vous voyez, le chanfrein, c'est la ligne entre le front et le bout du nez.
Ouais.
Hein, si ça fait un angle presque à, on va dire à 70 degrés, c'est un sanglier. Si c'est un cochon. Si c'est tout droit, c'est un sanglier. Voilà, ouais, ça c'est plus facile quand même, mais ça vaut. C'est...
Bon, enfin, cela dit, à discuter avec des chasseurs, ouais. Il est vrai que en Corse, par exemple, sur la chasse au sanglier, ils nous disent il y a beaucoup ce qu'on appelle les croisés. Quoi. Il y a de plus en plus.
Oui, mais on va revenir là-dessus, mais il y en a toujours eu, puisque c'est plutôt des décroisés à ce moment-là, hein, puisque encore une fois, le cochon domestique est issu d'un sanglier, d'un animal sauvage. Et que de tout temps, il y a eu des cochons qui se sont baladés dans les bois pour aller à la glander. Il y avait des porchers qui les surveillaient. Mais lorsqu'une truie est en chaleur, elle peut très bien être prise par un sanglier. Hein, puisqu'il est quand même plus balèze. Et ça, à chaque fois, ça retrempe le sang. Donc c'est très compliqué de retrouver ces petits cochons au milieu de tout ça. On fait le tour du bonhomme ?
Oui.
Hein, parce qu'il y a des noms qui sont extraordinaires. On va commencer un petit peu par la tête, hein, les yeux. Alors ça a pas des yeux fantastiques, ça voit bien clair, ouais, c'est pas le sens qui est le plus important, ça s'appelle des mirettes les yeux
les mirettes.
Hein, c'est pas mal.
C'est joli.
Les oreilles, vous savez qu'ils tournent pratiquement comme celles d'un chien, hein. Ça c'est très important. Les écoutes.
Oui, mais ça y va bien en plus. Hein.
La tête, le bout de la tête, c'est la hure. Hein, c'est-à-dire c'est avec ça qu'on fait du fromage de tête. Du fromage dur.
Hein.
Voilà. Du fromage mou. Les défenses. Alors, il y a des défenses qui sont... c'est celles que ça vient d'en dessous. Hein, les incisives inférieures. Les canines inférieures, pardon.
Ouais.
Et au-dessus, il y a les grès. Hein, qui sont sur la mâchoire supérieure et qui permettent de d'aiguiser les défenses.
Bas. Mais les plus importantes sont celles du bas quand même. Hein.
C'est celles du bas, oui. Les autres, c'est juste, c'est un pistolet au sens pistolet de chez le boucher. Sur la tête, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben on a fait le tour à peu près.
Ouais.
La queue, ça s'appelle la vrille.
Mais parce qu'elle est en tire-bouchon.
Il a un toupet. Il est gonflé, il a un toupet, puisque c'est la touffe de poils qui est au bout de la queue. Ouais. Les mamelles, ça s'appelle pas des mamelles, ça s'appelle des alettes.
Oui, pour allaiter.
Eh oui. Les choses du monsieur, hein, c'est peut-être pour suiter, en tout cas, ça s'appelle des suites.
Ah bon ?
Le marcassin est issu de suites, si je puis le dire. Hein. Les poils sont des soies.
Oui. C'est avec ça qu'on faisait les brosses à dents, non ?
Oui, les brosses à dents qui étaient des vrais nids à bactéries d'ailleurs.
Oui, on en faisait aussi les brosses à habits surtout.
Bien sûr. Alors il y a une petite touffe de poils qui prolonge le fourreau de la verge. Hein, donc ça, ça s'appelle le pinceau.
Joli.
Le museau, on a parlé tout à l'heure du bout de la,
c'est quoi,
du bout
le
de
mufle,
la tête.
Le mufle.
C'est le boutoir.
Alors le boutoir est pour cause, Jean-Bien. C'est parce qu'en définitive, il va chercher avec ça. Il boute.
Ah bah oui, on va revenir là-dessus. Ça s'appelle débouti. Enfin, il y a plein de mots autour de ça. C'est fantastique le vocabulaire qu'il peut y avoir. La peau qui est épaissie à la hauteur de l'épaule, dont on faisait autrefois des éléments de cuirasse.
Ouais. Hein.
L'armure. Et la bande de soie qui est au-dessus du dos, la crinière. Bon, et puis après, il y a plein d'autres choses à dire là-dessus. On va continuer. On a commencé à s'étonner avec le poids tout à l'heure.
Oui. Hein,
et on va aller un petit peu crescendo. Alors, j'ai appelé mon ami François à la Fédération des chasseurs de Corse du Sud. Le plus gros sanglier dont ils ont eu connaissance à peu près, c'est 115 kilos. En Corse.
C'est pas mal déjà.
C'est pas mal. On sait qu'il y a, lorsqu'on le vide, ça c'est un poids vif. Hein. Lorsqu'il est vidé, il y a environ 20% du poids qui disparaît.
Il s'en va. Ouais, les entrailles.
Ah, puis la tête.
Les pattes.
C'est une forte tête, oui, il y a un tas de choses qui se... Tout est bon sauf le cri, mais enfin il y a quand même pas mal de choses qui s'en vont. Sur le continent, c'est entre 150 et 180.
Ah, c'est un peu plus.
Mais un peu plus.
C'est dû à quoi, d'après vous, Jean-Pierre? Parce que ils vont en montagne, ils sont peut-être plus en plaine.
Oui, ils sont. Je pense que alors.
C'est au moins l'exercice, quoi.
Il y a 30 ans, j'aurais dit que c'était à peu près le même poids.
D'accord.
Maintenant, un sanglier solonio, il a un pouvoir d'achat supérieur à un village africain.
Eh oui.
En ce sens qu'il a du maïs pour lui tout seul plus que dans un grenier d'ogon, ouais. Qu'on lui donne un tas de vitamines pour que justement qu'on planque dans la nourriture. Bien que l'agrainage, ça s'appelle l'agrainage, soit quelque chose extrêmement contrôlé, on arrivera là-dessus aussi parce que ils ont tellement à bouffer qu'il y a une progression géométrique dans les populations exponentielle. Mm-hmm. On n'arrive plus à contrôler, mais n'empêche qu'on peut tirer des sangliers qui font 180 kilos. Comme disait un mien ami là-bas, dans son patois local, il disait ça il y a déjà 30 ans, de mon temps, qui disait le gars. De mon temps, les sangliers, ils étaient raides de maigre. Maintenant, ils sont gras comme des cochons.
Oui. Et ce qui n'est pas le cas en Corse, où,
non,
ces sangliers-là...
Sauf certaines populations, alors c'est presque une sous-espèce qui est en train d'apparaître. J'allais dire, je les appellerais des cochons, des sangliers du littoral. Hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui mangent dans les gamelles, qui mangent le ronron du chat ou le maïs spécialement acheté.
Ou les
poubelles. Salut mes amis, parce que j'ai plein d'amis qui font ça. Moi, je le fais pas, bien entendu. Enfin, bien entendu. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ces sangliers-là n'ont plus vraiment des attitudes d'animal sauvage.
Oui, parce qu'en plus, je notais, là, c'est les chasseurs qui me disent ça, c'est qu'ils ont ils sont très opportunistes parce que il a la faculté de s'adapter à tout au niveau des sources alimentaires. Ils mangent tout, quoi.
C'est des bénis bouffetous. On va revenir là-dessus juste après. On va continuer un petit peu dans le gigantisme. Il y a une règle qui n'est pas vraiment une loi physique, mais c'est une constatation qui s'appelle la règle de Berman.
C'est quoi,
la règle de Berman, c'est un zoologue qui a constaté que plus on allait vers l'Europe de l'Est, en partant de notre Occident, plus certains mammifères étaient gros. C'est valable pour les chevreuils. Un chevreuil chez nous, il fait 30 kilos. Un chevreuil de Sibérie, il en fait le double. Un cerf élaphe chez nous, il va faire 220 kilos au grand maxi. Un cerf maral, qui est exactement le même, mais à la forme ouzbek ou kazakh, il va en faire 50% de plus. Et les sangliers, c'est aussi la même chose, puisque on arrive quand même à des sangliers qui sont énormes. Alors là, de manière, non pas exceptionnelle, en Turquie, il y a des sangliers qu'on appelle des attilas. Parce qu'ils peuvent faire 280 kilos, 300 kilos.
Et heureusement que je vis dans le sud.
Et oui, et il y a aussi un record, alors que personne n'a été vérifié, parce que c'est le président Joukov, président de la République socialiste de Bulgarie, qui est recordman du monde. Mais encore une fois, c'est assez étonnant qu'il soit venu, cet énorme sanglier de 400 kilos, soit venu se faire tirer par le président de la République, mais c'est celui qui est homologué. Enfin, c'est comme ça. Donc, le plus gros sanglier.
Ouais.
C'est encore un petit par rapport aux cousins domestiques dont on parlait.
Oui.
Il y a quand même des porcs, en particulier la famille Large White, 600 kilos. C'est-à-dire que c'est des animaux qui peuvent plus marcher et qui se font, d'ailleurs, c'est un détail terrible, qui se font bouffer comme ils peuvent plus bouger pratiquement. Les rats viennent se servir, ils aiment bien de lard, ils se servent directement dans les cuisses.
Bon, ben écoutez, la pauvre, la pauvre bête.
Ben c'est bon, le...
Ah oui, oui, bon, oui, là, probablement. Ah oui, ça, c'est bon.
Qui que t'as mieux? T'as mieux ton père ou ta mère? J'aime mieux le lard.
Ouais, ça, on peut comprendre ça. Hein. Alors, on parlait de ces poids de sangliers entre 100, 110, 120 jusqu'à 400 kilos. Bon, chez nous, la moyenne, vous le disiez, c'est 100.
C'est non, c'est le record.
Le record, chez nous en Corse.
Non, là, il y a sur le tableau de sangliers tirés, en gros, dans le. Il y en a eu simplement l'année dernière, il semblerait qu'il y en ait eu simplement 7000 en Corse du Sud, et que ce soit une très mauvaise année, puisque l'année d'avant avait été très sèche, donc il n'y avait pas eu de gland et les portées n'avaient pas donné. Mais la moyenne, c'est une quarantaine de kilos.
Il y a pas mal, quoi.
Oui, ouais, mal, ça fait un sanglier portion pour Obélix.
Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est la raréfaction de la nourriture, probablement, c'est vrai qu'il y a des dégâts quand même qui sont commis par les sangliers en Corse, on le voit, les jardins, ils descendent en ville, on les a vus au pied de la radio à Ajaccio, ils ont été filmés par notre ami Jérôme Souzigne, ils sont arrivés là pour manger dans les poubelles, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, et ils sont nombreux.
C'est vrai qu'ils sont il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que tous les animaux sont très opportunistes. La grande règle, c'est de pas d'essayer de dépenser le moins d'énergie par rapport à aux protéines qu'on va récupérer.
Oui.
Bon, là, c'est très facile. Ils prennent l'habitude d'aller manger là-dedans. Pourquoi, même s'il y avait à manger ailleurs, de manière plus difficile, ils iraient s'embêter,
hein?
À la limite, ici, ils sont complètement peinards. Ils savent qu'ils vont pas être chassés sur le cours Napoléon. Mais ils ont à la fois le couvert et le couvert, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont protégés et en même temps, ils ont à manger. Donc, et puis, il y a aussi le fait qu'il y en a, même s'il y en a un peu moins, il y en a de plus en plus. Parce qu'on va arriver tout à l'heure sur les chiffres. C'est faramineux. C'est-à-dire qu'en 40 ans, les chiffres ont été multipliés par 10.
Oui, parce qu'on parle de la prolifération des lapins et des lièvres, mais ils sont pas loin derrière, quoi.
Ah bah oui, il y a la stratégie de reproduction, elle a quelque chose de lapinesque, hein. On va le voir tout à l'heure.
Alors, on parlera de ça parce que les laits, c'est important. Ouais. On dira aussi que quand une lait a des petits, surtout vous approchez pas déjà, parce que elles sont plus ou moins pas apprivoisées, Jean-Pierre. Mais c'est vrai que on les approche de très près, quoi.
Non, mais même alors, si vous vous promenez réellement dans une forêt, n'importe laquelle, et que vous arrivez auprès d'un chaudron, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est assez marrant, peut-être prédestiné, les marcassins naissent dans une sorte de nid, hein, c'est le nid, un peu le nid du marsupilami, mais à terre, et cet endroit-là s'appelle un chaudron. Et lorsque vous arrivez, alors la mère n'est pas tout le temps avec eux, moi ça m'est arrivé dans une forêt de Rambouillet et autres, de les filmer, je faisais vraiment attention à ce qui arrivait derrière, parce que j'étais, en gros, comme j'étais juste à côté du chaudron, la mère, elle pouvait très bien venir, et alors là, complètement, me bousculer, c'est pire que ça, je veux dire, c'est très costaud, et en même temps, une lait, ça n'a pas de défense, mais ça mord très très bien. À la chasse, il y a très souvent des chiens qui meurent avec en particulier les petits, bien sûr, avec l'échine qui est broyée par les laits.
Puis pareil, moi je me rappelle d'une personne âgée maintenant qui est partie pour le grand voyage, qui disait si vous approchez du lait, que ce soit un animal, un cochon domestique une lait sauvage, si elle a les petits, on retrouve les chaussures, quoi.
Ah oui, mais d'ailleurs la dangerosité d'un sanglier ou d'un porc domestique est à peu près équivalente. Peut-être même d'ailleurs que un verra bien fâché, donc un animal qui a pas été châtré, il faut peut-être y faire plus attention parce qu'il a plus du tout la peur naturelle de l'homme. Enfin, c'est la peur de l'homme.
Oui, la peur de l'homme.
Donc
voilà. Alors on va écouter une chanson qui s'appelle Virginia, qu'a chanté notre ami Pedro Guelfucci. Et on va se retrouver tout de suite après pour continuer à parler des suidés, plus précisément du sanglier, et bien sûr de ses cousins.
Guante la saeta, però ci più che leoni mi bucono a lui mando. La rimposta lo stagione, l'animale da verroge e di gamuscolatore. Thank you. si vide più e poco, a cui di piombo per tutti quei contorni. Te o tu cantoni e ognuno pretendia alla massima evoluzione. E tutto un mondo sano qui in Francia e in Italia, gli occhi neri e frigiolati, non conosce una soggera di vegani ma di questi.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Voilà, là, c'était vraiment l'histoire d'un sanglier énorme qui malheureusement n'a pas été ni peint, ni photographié, que chanté Pedro Elwood, puisque l'on parle des sangliers, les amis, aujourd'hui sur RCFM avec Jean-Pierre Fleury dans Naturellement vôtre. Alors Jean-Pierre, on va parler un tout petit peu de sa reproduction, ce petit bébé.
Oui, bien sûr. Autrefois, là, il y avait une saison de reproduction. Hein.
En automne.
L'accouplement se faisait effectivement à la fin de l'automne, vers Noël. Mmh. Hein. Donc, c'était précédé de très très belles bagarres entre les mâles. Hein. C'était spectaculaire. Moi, j'en ai filmé dans la neige, ça avait de la gueule. Hein.
C'est violent, en plus.
Hein. Il faut pas aller mettre les mains dedans. Hein. C'est-à-dire que vous avez deux sangliers de plus de 100 kilos qui essayent de gagner donc le combat.
C'est quoi, mais ils se mordent.
Ils se mordent et il y a les défenses.
Ah ouais, là, donc,
les défenses, elles servent à ça. C'est 50% de l'utilité des défenses, ouais. Si j'ose dire. Donc, c'est aiguisé comme des rasoirs et c'est très, très saignant. Hein. Alors, effectivement, la nature a doté ces animaux d'une carapace à la hauteur des épaules, une carapace de peau qui fait un bon centimètre d'épaisseur. Et donc, c'est pas facile à percer, mais enfin, quand même, il y a des grosses bagarres. Bon, on va arriver alors à l'accouplement, pourquoi pas, hein, ça se fait. Bon,
c'est rapide. Ils
font ça comme des cochons. Hein. C'est toujours rapide dans la nature, hein, de toute façon, sauf peut-être les rhinocéros et autres. Quand les mâles, vous savez, sont bien énervés, c'est aussi d'ailleurs, on le sait, quand on va chasser, quand un sanglier est aux fermes, quand c'est un gros mâle, il casse des noisettes, on dit. C'est-à-dire qu'il fait des bruits comme si le...
Ah ouais.
Et c'est parce que il affûte ses défenses sur les grès. Et là, en même temps, c'est vraiment affûté parce que c'est mouillé en même temps. Vous savez, quand vous affûtez un couteau, ouais. Il faut que ce soit mouillé. Lui, il bave en même temps. Donc il a la hure pleine d'écume. C'est très très impressionnant.
Et c'est le signe qu'il est en rut là.
Ça veut dire qu'il est en rute ou alors qu'il est chassé et qu'il est pas content d'être en...
Ah d'accord.
oui. Qu'il faut planque-toi ou alors arme-toi de courage et d'un bel épieu. C'est toujours marrant, on le répète, parce que ça c'est très facile. Le temps de gestation c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours.
Ah oui,
après on sait pas. Hein. Ça veut dire que ça nous amène à supposer que le rut ait lieu le 1er janvier. Ça nous amène pratiquement à la fin du mois de mars. Donc toujours le fameux truc... où il y a c'est le moment où il y a le plus de nourriture. Mais alors maintenant, ces choses-là sont complètement changées, parce qu'autrefois les laits avaient une portée par an, grand maximum. Mm-hmm. Là maintenant, c'est plutôt 3 portées tous les 2 ans. Donc c'est forcément décalé, comme il y a bouffé partout. Hein. Alors c'est le nombre.
C'est combien une portée, Jean-Pierre ?
Alors ça dépend. Bien entendu que je vais vous répondre ça, cher ami.
Alors
ça dépend de l'âge de la lait. Quand elle est toute petite, hein. Il faut savoir que, quand je disais que la stratégie ressemblait à celle des lapins, elle est très très vite capable d'avoir des petits. Là, à 8 mois, elle est mature.
Ah oui.
Hein. Le mâle, lui, c'est à 10 mois, donc ça va très vite. Il peut, alors on l'a dit, il y a 3 portées tous les 2 ans, et la petite lait, donc la plus petite, donc qui fait ses 40 kilos, quoi, qui vient de, elle peut avoir 2 petits. Si elle en fait 60, elle peut avoir 4 petits. Et quand elle est adulte, elle fait 6 petits. Et ça va très très vite tout ça. Il y a une croissance exponentielle. Hein. Ouais, alors ce qui est amusant, c'est que les petits, on le sait, s'appellent des marcassins. Hein. Mmh. Ils naissent dans un chaudron. Hein. Ça, on le sait aussi.
C'est beau en plus. Hein.
Ah oui, ça, tout à fait. Et après, il y a tout aussi, encore un vocabulaire. Ils changent de nom. Alors, là, on a dit le marcassin. Dont le nom d'ailleurs vient de l'agace. Agace, c'est le nom provençal d'épi. Parce que, quel rapport il y a, paraît-il, parce que le marcassin est de deux couleurs, il a une livrée, il a un pyjama,
ouais. Hein.
Il est noir avec des rayures quasiment jaunes, hein, qui s'estompent après, et il fait jusqu'à environ 20-25 kilos, il garde ses rayures, hein. C'est les six tout petits premiers mois. Après, entre 25 et 45 kilos, autour de 12 mois, il est bête rousse, hein, parce que justement, il a changé de couleur. Après, la deuxième année, donc entre 12 et 24 mois, il est bête de compagnie. Ensuite, de 2 à 3 ans, c'est assez marrant comme nom, il est ragot.
Oui.
Ou ragote, pour la
femelle.
De 3 à 4 ans, il est tiers-an, hein, que ce soit pour la femelle ou pour le mâle. De 4 à 5 ans, il est quartanier.
Hein.
Et un mâle adulte, c'est un quintanier, c'est-à-dire que c'est au-dessus de 5 ans, ou un solitaire. À partir de 6 ans, c'est un vieux solitaire ou une vieille ilée. Hein, et à partir de 7 ans, c'est un grand vieux solitaire.
Parce que la longévité, c'est quoi, s'il lui arrive rien, quoi?
Oui, alors il y en a beaucoup qui ont été élevés, mais ça veut rien dire. Hein, puisque la longévité, ça dépend où. Les pays, en France, où il n'y a plus guère de loups, ça peut être relativement long, ça peut être une bonne douzaine d'années.
Et parce qu'il a un paquet de prédateurs, sinon. Hein.
Ah bah oui, quand il est adulte, il n'a pas de prédateurs, sauf le lynx, peut-être, jusqu'à une certaine taille, et maintenant, de façon certaine, les loups.
Les loups.
Les loups qui chassent en meute. C'est-à-dire que
les ours aussi, on m'a dit, c'est vrai.
Oui, mais ça court très vite, un sanglier. Hein, c'est facilement 25, enfin même beaucoup plus que ça. Ça court comme un homme, hein, environ 36 à l'heure. Enfin, non, pas moi, mais... Et ce qu'on peut souligner, c'est que pendant très longtemps, les grands prédateurs, pendant 120 ans environ, les grands prédateurs avaient pratiquement disparu des paysages français. Je pense aux loups, justement.
Ouais.
Et que maintenant, la musique a changé. C'est-à-dire que les cerfs, les sangliers, les chevreuils, il va falloir qu'ils réapprennent à être chassés tous les jours.
Et oui.
Donc ça veut dire aussi que les chasseurs, il va falloir qu'ils réapprennent à chasser parce qu'ils auront affaire à des animaux surentraînés. Ça va complètement tout changer.
Et là, en plus, qu'ils sont plus nombreux.
Oui, bien sûr. Bah oui, mais ça. Alors là, après, on peut penser aussi que les populations vont s'équilibrer. C'est-à-dire que si un jour il y a effectivement énormément de prédateurs, d'ailleurs il y a les prédateurs, il y a les loups, mais il y a aussi énormément de chiens errants. Il y a des troupes de chiens errants qui font un sacré boulot, en particulier sur les petits. Alors les prédateurs qu'ils peuvent avoir, on évoquait les marcassins, une petite bête qui fait 700 grammes, elle a tous les prédateurs qu'on veut. Hein. Même, pourquoi pas les gros chats, pourquoi pas bien sûr les chiens de la maison, etc. Tout peut se mettre là-dessus. En même temps, eux, alors on va revenir sur leur régime, sur la façon dont ils vivent, hein, comment ils se déplacent, comment ils mangent, etc. Parce qu'on va s'apercevoir que c'est aussi... c'est Attila quand il passe quelque part. L'herbe ne repousse plus, si j'ose dire. Donc, alors, on a dit que c'était des animaux... ils s'appellent solitaires, mais c'est des animaux grégaires. On a évoqué les compagnies, hein, ça s'appelle une compagnie.
Ah, oui.
On ne dit pas une harde, on ne dit pas une horde, on dit une compagnie de sangliers.
Compagnie.
Il peut y avoir parfois plusieurs dizaines d'individus. En Corse, on peut en voir, avant d'ailleurs que les compagnies n'éclatent à cause de la chasse trop récurrente, ils peuvent être groupés par 20. Les battues d'ouverture, il n'est pas rare d'en voir de très nombreux en même temps. Après, ça s'égaille, c'est plus tout à fait la même chose. C'est des baladeurs opportunistes et sonores. C'est-à-dire que on les entend. Hein, quand il y a une compagnie de sangliers quelque part, on entend ça. Il n'y a pas besoin d'être très habitué pour savoir que c'est ça. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Hein, ils vont poursuivre leur chemin. Quand ils sont comme ça, vous imaginez une vingtaine ou une trentaine d'animaux qui ont des performances olfactives extraordinaires. Qui connaissent la nature sur le bout des onglons, si j'ose dire, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est des immenses prédateurs de toute la faune qui est de la faune terrestre. Et il y a une inverse proportionnalité entre l'intensité des populations de sangliers et celle de lièvres, de perdreaux, de bécasses, quoi, les endroits où parce que ces animaux-là nichent au sol. Bon, les perdreaux, on sait qu'ils font pas les levreaux, on sait qu'ils sont pas dans les arbres, mais les perdreaux font leur nid au sol. Et donc les œufs ou les oisillons sont mangés
rapidement.
Ah oui, rapidement.
Alors moi, je regardais. On parle souvent des dégâts causés par les sangliers, par ces troupes de sangliers qui sont une dizaine, comme vous disiez, quand ils débarquent dans des champs, ils ruinent tout. Mais il faut qu'on précise aussi à nos amis qui nous écoutent qu'ils sont importants aussi dans l'écosystème, parce que je les voyais il y a quelque temps au village chez moi, ils remuent beaucoup la terre. Est-ce que c'est bien de remuer autant la terre? Et là, quelqu'un qui était au village me disait, Jean-Pierre, le fait de remuer la terre, ils aèrent la terre et ils participent à la défense de l'écosystème. Vrai ou faux, d'après vous?
Oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, il y a une question de rythme et des fois, en Corse, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que de l'épaisseur de terre arable, il y a 10 centimètres.
Ouais, ouais.
Moi, je les ai vus faire des trous dans des endroits comme la Beauce ou autre. C'est des trous qui font 50 centimètres. C'est-à-dire que
c'est plus la même,
ça ressemble plus à un bombardement. Hein. Donc là, il y a des vrais problèmes. Les terrains de foot dans ces endroits-là,
c'est labouré, quoi.
Oui. Et alors, on va revenir sur le régime alimentaire. Encore une fois, on dit que c'est un omnivore. On s'amuse avec le mot. Ça veut dire qu'il mange de tout et tous les restes, d'ailleurs. Et les restes de tout. Hein. Maintenant, on sait que ça mange des charognes, ça c'est évident, des charognes en tout genre. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, autrefois, quand il y en avait, je ne veux pas dire que c'était le bon temps, mais il y avait justement, on parlait tout à l'heure, des quantités de glands. Après les grandes batailles, un an après, il y avait aussi pas mal de sangliers, ouais, comme il y avait aussi des... puis maintenant, ça, on l'a dit, ça aime bien, ça mange dans les poubelles, ça mange le ronron dans les gamelles, quoi. Ils savent très très bien les faire.
Alors j'ai vu que je ne savais pas du tout qu'ils peuvent, ils sont capables de manger aussi des grenouilles, des amphibiens, tout ce qui leur tombe sur le dos.
De tout. Ah oui, non, ça tout à fait. Alors c'est pas parce que
Jean-Pierre, juste une question. Oui. On vous dit bon, la laine a ses petits, donc elle les défend, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Oui.
Le mâle. Pour autant, est-ce qu'ils vivent en famille ou pas? Est-ce que le mâle défend à un moment donné ses progénitures ou pas du tout?
Il peut y avoir les mâles. Bon, encore une fois, dans les compagnies, les grands mâles les plus efficaces, ils sont solitaires.
Hein, ouais,
donc ils sont pas là pour défendre. Je suis persuadé que certaines occasions, justement contre les loups ou autres, ils sont capables de faire front, certain.
Ça,
parce qu'ils ont ce qu'il faut, encore une fois. Un animal qui fait une centaine de kilos, qui est de muscles. Hein, c'est un petit char d'assaut, un sanglier. Hein, et c'est un petit char d'assaut bien armé. Alors, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'on ne peut pas les voir, si je veux dire. Je dis tout le temps, quand je me promène dans la nature avec les gens, regarde, eux nous voient, mais ils sont pas là, mais on va voir aussi qu'ils sont présents. Alors là aussi, il y a plein de mots pour évoquer ce qu'ils font.
Ouais.
La souille, par exemple, c'est une des choses qu'on voit le plus souvent.
C'est le caca ?
Ah non. Non, la souille, c'est une cuvette humide dans laquelle les animaux se souillent, c'est-à-dire qu'ils sont...
Ah oui, oui.
Ils vont se rouler dedans. Donc ça, c'est certainement ce qu'on voit le plus facilement. Alors, une petite chose, d'ailleurs, si un jour vous voyez une souille, pour savoir si elle a été fréquentée il n'y a pas longtemps, si l'eau est transparente et limpide, c'est qu'il y a longtemps que le sanglier est venu. Si elle est toute trouble, qu'elle n'a pas eu le temps de se décanter, c'est qu'il est passé la nuit, quoi. Hein. Donc ça, c'est une chose...
Il s'enduit debout, quoi.
Il s'enduit debout parce que là, justement, ça les fait. Alors, s'il y a une régulation thermo, ils ont très souvent des parasites, ces petites bêtes-là.
Notamment.
Les tiques.
Les tiques, oui, la maladie de Lyme, c'est quand même lui qui est.
Oui, c'est aussi surtout les cerfs. Les cerfs aussi.
Ah, les cerfs aussi.
En ont beaucoup.
Alors, abominable, la maladie de Lyme.
Ah, c'est bien sûr. Longtemps, j'ai pensé l'avoir. C'est un truc qui vous vide complètement. On n'a plus rien dans
le gilet. On peut
plus rien dans le gilet, plus d'énergie, plus
d'envie.
La Bauge.
La
Bauge, c'est l'endroit, c'est un gîte qui est légèrement creusé dans la terre.
Oui.
Alors, c'est pas sale, hein, c'est l'endroit où il aime bien passer la journée, puisque c'est avant tout nocturne. C'est un endroit sec. Dans les zones qui inondent facilement, lorsque c'est inondé, c'est là où on va les trouver, si vous voulez.
Est-ce que pour autant, Jean-Pierre, le sanglier est nyctalope?
Mais oui, cher monsieur, bien sûr.
Voilà. Ah, il y a qui voit la nuit, quoi.
qui voit la nuit, et aussi donc qui se déplace la nuit parce qu'il a, il a un sens olfactif extraordinaire. Il a des vibrisses aussi, il est capable de, il a tout le système de poils qu'il y a autour de, du gros lui donne des informations. Alors, il y a aussi il y a la présence de boutis. Les boutis, c'est ce qui est fait par le boutoir dont on a évoqué tout, on a évoqué tout à l'heure. C'est quand il va à la recherche de nourriture, c'est là où il fait des dégâts d'ailleurs. La nourriture souterraine, c'est il cherche des racines, des bulbes ou des trucs comme
champignons.
Ça. Champignons. Alors, surtout les champignons enterrés. Parce que
les truffes, donc.
Les truffes, voilà. Tiens, petit chéri. C'est très, très efficace, hein, les sangliers, pour trouver des truffes. Moi, j'avais filmé une dame qui avait une petite lait du côté de, dans le Gard, là-bas. La petite lait, elle était plus efficace que les grosses cochonnes, si j'ose dire, parce que elle était beaucoup plus rapide. Alors, le problème de rapidité, justement, c'est qu'il fallait arriver avant elle, quoi. Parce autrement,
elle mangeait
les truffes par douzaine. Les vermillis.
C'est quoi, vermillis?
Alors, c'est des sillons qui sont bien particuliers. Mm-hmm. Ils sont faits parce qu'ils recherchent soit au départ, les vers de terre. Hein. Mm-hmm. Donc, vous imaginez le sanglier qui est dans une terre relativement meuble, il a enfoncé son gros un dedans, hein, la hure, hein, et puis il relève pas. Il fait un sillon. Hein.
D'accord.
Et c'est la même chose quand il va manger les maïs en lait.
Ah, il fait pareil.
Il fait pareil. C'est, vous retrouvez le maïs, le sillon qu'aurait fait le semoir, vous le retrouvez, hein, parce qu'il a été recreusé, mais dedans, le maïs est parti, quoi. Ça, c'est là. Les laissés, alors on évoquait tout à l'heure, c'est les excréments. Hein. Il y a des noms dans notre vocabulaire pour chacun. Ce serait des desserts, ce serait des fumées, etc. La voix d'un animal, alors ça c'est pas propre au sanglier, c'est l'ensemble du trajet suivi par un animal de chasse, c'est l'ensemble des empreintes et des odeurs. C'est ce qu'on appelle la voix.
Mais les odeurs, on les décèle comment? Pourquoi ils se frottent contre les
chiens?
Arbres.
Ah oui, alors bien sûr. Ils ont tout autour, on n'en a pas parlé, tout autour du sanglier, il y a des glandes un peu partout pour marquer le territoire. Pour marquer le territoire vis-à-vis des congénères. Les frottoirs, c'est des traces sur les troncs d'arbres.
Ouais. Hein,
on en voit souvent. On a l'impression qu'on a donné des coups de couteau dedans. Hein. C'est les défenses qui vont se frotter dedans. Et les usures, et puis après on arrêtera parce qu'on pourrait continuer pendant très longtemps, c'est les croûtes de boue qui sont laissées sur les frottoirs. Parce que le sanglier, il aime bien aller dans sa souille, hein, puis après il va se frotter son dos contre
pour tout enlever.
Pour tout enlever. Et il adore une chose, ça, on ne le fait pas encore ici, les chasseurs du continent vont acheter du goudron de Norvège ou des choses comme ça. C'est-à-dire, en gros, des produits de beauté. Le goudron de Norvège, c'est on dirait de l'essence de térébenthine. Quoi. De toute façon, c'est un concentré de la résine du pin, comme l'essence de térébenthine.
Et pourquoi faire?
Parce que les sangliers adorent ça, parce que ça colle comme de la résine, et ils adorent avoir ça sur le poil. Quoi. Donc ça les attire. Parce que là-bas, on chasse beaucoup aussi à l'affût. C'est-à-dire, on se planque et on attend qu'ils viennent. Il n'y a pas que les battus. C'est différent. La battue, on les fait sortir de quelque part. Les affûts, on attend qu'ils sortent. Il y a une autre chasse qui s'appelle l'approche, où là, justement, ce qui est la plus difficile, on approche vers les animaux.
Là, vous parlez de la sensibilité de cet animal, du sanglier. C'est vrai qu'il a un pouvoir au niveau de son groin extraordinaire, parce qu'il sent le vent, donc il sent les odeurs. Les oreilles aussi, il perçoit assez loin, quoi, les sons. Les yeux, je ne sais pas s'ils voient loin, mais en tout cas, bon.
Alors, parlons des mirettes et parlons des écoutes.
Ouais. Mirettes et les écoutes. Alors, les écoutes, apparemment, il est sensible.
Ah ouais, très, 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 très sensible. Et puis, bon, bah, surtout, le nez, quoi. Le grand 1, il est capable de...
Il faut se mettre contraire au vent, c'est ça.
Il ne faut pas que le vent apporte votre odeur.
Eh oui. Hein.
Donc, autrement, c'est... Et ça, normalement, c'est la base de n'importe quel chasseur.
Voilà, c'est ça.
Mais maintenant, on évoquait tous ces animaux qui sont partout, d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement, ils sont tellement proches des hommes qu'ils s'en foutent complètement. Autrefois, vous tapiez, faisiez une erreur à un kilomètre de l'endroit où vous alliez vous poster, vous claquiez la porte de la voiture, c'était fini, l'enceinte était vidée.
C'était terminé. Quoi.
Maintenant... c'est interdit d'agréner, mais la voiture du garde, ils en connaissent le moteur. À la limite, le garde fait régler ses culbuteurs, les animaux vont avoir peur, parce que c'est plus tout à fait le même son. Parce que ça apporte, il y a des tonnes de maïs, des tonnes de potirons, des tonnes de pommes, de betteraves et tout ça. Tout ça, ça nourrit ces animaux qui sont en surnombre.
Alors, on va continuer à parler du sanglier, mais surtout maintenant, parce que le temps tourne, on va parler un tout petit peu de ses cousins. Ouais. Ce sera après cette chanson de Georges Brassens.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
J'aime bien, de temps en temps, un petit Brassens. Ça
bah oui, hein.
Ce monde de brutes. Alors, on va parler un tout petit peu du sanglier chez nous, parce que.
J'allais dire, c'est Pascal Cléonas.
Ah, bah voilà, c'est l'animal emblématique, on parle de l'âne.
Oui, complètement.
Mais le sanglier. Ouais, ouais.
Alors, les populations ont évolué, comme comme sur le continent. On va souligner une chose. En 76, le tableau de chasse des sangliers, tout confondu, dans toute la France, c'était 60 000. En 77 même. Ouais. En 2013, c'était 600 000, multiplié par 10. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi de 1976 qui a interdit aux paysans ce qu'on appelait le droit d'affût, c'est-à-dire de défendre, entre guillemets, leur culture, je dis bien entre guillemets, parce que c'était devenu une chasse de 12 mois sur 12 et 24 heures sur 24. Quoi. En contrepartie, ils n'avaient plus le droit de cette chasse-là. Ils avaient bien le droit après de chasser, mais normalement, et on leur a payé des dégâts. Hein. Et ces dégâts, c'est devenu, comme maintenant il y a une prolifération, les fédérations de chasse n'ont plus d'argent pour payer ça. Ça pose un véritable problème. Bon, la situation en Corse actuelle, là, ça vient justement, les chiffres viennent de François de la Fédération. Il y a 17 000 permis en Corse, hein, ce qui est pas mal sur 300. Là. Ouais, ouais. 80% de ces chasseurs sont des chasseurs de sangliers.
Ah, hein. D'accord.
Une année à peu près normale, c'est très difficile d'avoir les chiffres, il y a environ 10 000 sangliers de tués en Corse. Ce qui est énorme, ça fait un gros tas. Il y a environ 500 équipes de battue en Corse dans les deux départements. Hein. Et maintenant, alors, il faut, ce sont des lois nouvelles, il faut un carnet pour avoir le droit de tirer à la chevrotine. Donc, avec un minimum de 7 chasseurs par battue, et bien sûr, alors, un dispositif fluo pour être se reconnaître entre eux, etc., entre nous, puisque moi, ça m'arrive bien sûr de les accompagner. Et qui d'ailleurs dispositif fluo qui va devenir beaucoup plus contraignant puisque on va être obligé de porter des gilets alors que jusqu'à maintenant c'était apparemment pas obligatoire. Donc voilà, on a parlé un petit peu de. On pourrait parler bien sûr de l'animal exécré et de l'animal sacré, hein, puisque il était un petit peu partout. C'était, on sait que les cerfs, les celtes les vénéraient par exemple. Hein. Les travaux d'Hercule, hein, le sanglier dérimante, c'était peut-être un Attila, puisque...
On l'a appelé comme ça.
C'était un sacré balèze. Hein. C'était un grand chasseur, d'ailleurs, le Hercule. Hein. Enfin, plutôt un sacré braco, si je puis me permettre. Il a étouffé le lion de Médée, il a tué l'hydre de Lerne, capturé la biche de Cérini, tué les oiseaux du lac Simpal, parce que... Simphal, pardon, sous prétexte qu'ils avaient des ailes d'airain, etc. Donc c'était pas. Ça fait partie des 12 travaux d'Hercule, dans lesquels il y a aussi les pommes des Hespérides. Il faut enchaîner le Cerbère et pourquoi pas le 13e, préparer une émission pour RCFM. Donc c'est, vous le savez ça.
Oui, hein, tout à fait.
C'est Herculé. Hein. On parle des potes.
Oui, alors les cousins, c'est qui?
Alors c'est là. Alors il y en a. En gros, il y en a en Afrique. Il y a le potamochère.
Hein, oui.
Qui est le
plus petit.
Donc, alors, c'est le cochon du fleuve, il est plus petit. C'est le plus petit, il est fin, j'allais dire presque élégant, le poil roux foncé. Il vit près des potamos, ça veut dire le cochon du fleuve. Ouais. Hein, donc, il vit dans les zones plutôt mouillées. Et on va aller au plus gros, qui est peut-être le moins connu, c'est l'île-aux-Chères.
L'île-aux-Chères. Hein.
Il est sur l'équateur. C'est un poilu hirsute. Hein, il peut peser jusqu'à 250 kilos. C'est un nocturne forestier. Deux excroissances peu esthétiques, à la place des pommettes. C'est un omnivore qui bouffe de charogne et tout ça. Et il a quand même une belle couleur, puisqu'il est, il est de plusieurs couleurs. Il a des bandes quasiment jaunes. Enfin, c'est pas un vilain. Et puis, le faco, rapidement.
Ah, je l'ai connu.
Le faco, ça veut dire, c'est le cochon qui a des verrues. Un faco, les verrues. Chair, c'est du grec, je crois, pour les.
Les verrues, c'est quoi? Parce qu'il a la gueule qui est écartée par rapport à ses grosses défenses, non?
Non, mais il a vraiment des excroissances. On sait toujours pas pourquoi ça sert, à quoi ça sert. Ça doit beaucoup plaire puisque c'est ceux qui ont les plus gros, si j'ose dire, qui plaisent beaucoup.
Et c'est violent, par contre. Hein,
Il faut pas les. Ils ont des sacrées défenses. Ils ont des défenses qui peuvent. Qui peuvent aller jusqu'à 60 centimètres. C'est recourbé. Hein. Bon, tout le monde le sait, c'est la viande de brousse en Afrique. Et puis, la viande pour les humains, mais aussi pour tous les prédateurs. Hein. Quand le lion n'a pas autre chose à se foutre sous la... Alors lui-même, il mange un tas de trucs. Hein. C'est assez marrant, il mange à genoux. Vous l'avez vu, ça?
Oui, je l'ai vu. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il a une énorme tête et qu'il a un corps souvent qui est très fin.
Exactement. Ah, ouais.
Comme
c'est peut-être pour ça qu'il est à genoux, d'ailleurs. Parce que c'est... Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est quand il fuit. Ils partent à la queue leu-leu, si j'ose dire. Et la mère, elle a la queue qui est en l'air, hein, qui est une sorte de bâton avec juste une touffe. Ça sert de repère.
Mais vous avez raison, parce que ça me rappelle des
histoires. Vous vous souvenez de ça? C'est vraiment sympa, ça. On pourra en parler pendant. Alors, il vit souvent dans les termitières. Il fait son nid, d'ailleurs, son chaudron dans les termitières. Il y a d'autres cousins. Il y a le pécari, hein, avec lequel on fait pas simplement des chaussures droites ou des chaussures gauches.
Hein.
Il est plus petit. Il vit, lui, uniquement dans les Amériques.
Ouais.
Du Texas jusqu'en Argentine. Alors lui, c'est un teigneux. Hein. Il fait 40 kilos, mais il vaut mieux pas se montrer à côté. Et puis, il y a le fameux Babirusa, qui, lui, est un suidé d'Indonésie, qui a la particularité d'avoir les défenses qui vont percer le crâne de temps en temps. Voilà.
Bon, on a fait le tour de cet animal mythique qui est l'emblème, on peut le dire, de la Corse.
Il pourrait rejoindre la Citelle et autres.
Il pourrait être sur les drapeaux aussi, tout ça. Bon, mon beau, on va se retrouver la semaine prochaine, nous.
Bah oui.
On parlera peut-être de l'éléphant ou
d'un gros bonhomme.
Animal, un gros bonhomme, pourquoi pas. Musique, maestro.
Allez.
Ça, c'est pour vous, ça.
Encore une bougie de soufflé, encore une allée de passer. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire pour que tu aies tout bon pour l'année entière.
Dès que notre ami Jean-Pierre, il est comme le bon vin. Il est hors d'âge et il se bonifie d'année en année. Bon anniversaire, mon ami.
Merci, monsieur.
Pour le bonheur profond et sincère, la réussite.
de chance et à l'année prochaine.
Nous te souhaitons un joyeux anniversaire pour que tes tourments pour l'année.
Voilà le clin d'œil à notre ami Jean-Pierre. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre, y compris sur les réseaux sociaux. Merci à Patrick Besseron et à Stéphane Casalongue. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un autre thème, un autre animal. On parle de nature au sens large, vous l'avez compris, dans ce rendez-vous naturellement vôtre.